RCF.
La tentation de Jésus au désert, c'est le thème de l'évangile de ce dimanche, un épisode développé avec force détail dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Cette année, c'est Marc qui relate l'événement et il n'est pas très loquace. On apprend juste que Jésus part précipitamment au désert et qu'il va vivre comme un ermite, entouré de bêtes sauvages et d'anges. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine le pasteur James Woody, pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Nous écoutons la parole chez Marc, chapitre 1, versets 12 à 15.
Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ».
James Woody, comme nous en avons l'habitude, resituons ce passage dans le contexte. Nous sommes au début de l'évangile de Marc.
Oui, en fait, le contexte le plus intéressant est le baptême de Jésus. Hein. Il vient juste d'avoir lieu et c'est aussitôt, hein, le texte commence comme ça, par aussitôt. Aussitôt après le baptême, l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Donc, c'est une sorte d'acte inaugural. Jésus commence son ministère par cela, en fait.
Il y a une parole très forte au moment du baptême, puisque les cieux se sont ouverts et il y a eu cette parole « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé ma joie ». Et c'est à l'issue de cette parole que Jésus va partir, va être jeté au désert.
Oui, on pourrait même traduire par « En toi j'ai mis mon affection », ce qui serait une manière de dire que le baptême désigne le fait que nous avons en nous la capacité de faire face aussi bien à l'expérience du désert, dont on va reparler, que cette épreuve avec Satan et la tentation dont on parlera aussi. La voix de Dieu que vous avez rappelée atteste une réalité qui est déjà présente avant même le baptême. Le baptême, en fait, confirme quelque chose qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Augustin avait cette belle formule, c'est un sacrement, et le sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible. Et au fond, cette grâce invisible, elle va se manifester dans cet épisode, très raccourci chez Marc, mais fort en couleur.
James Woody, regardons avec vous les paroles qui nous sont offertes. Donc ce dimanche, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert et dans le désert il resta 40 jours tenté par Satan. Marc nous dit littéralement que l'Esprit jette Jésus dehors au désert. Alors on retrouvait cette expression quand Jésus chasse les démons et qu'il les jette dehors.
Oui, c'est exactement cela, hein. C'est ek balein, donc c'est jeter hors d'eux. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement prophétique dans le geste du Saint-Esprit, c'est sortir Jésus du confort du baptême. C'est sortir Jésus du confort de la sacristie, du temple, de la communauté. Maintenant, il faut aller dans le monde. Il est rejeté, en fait, on pourrait même dire rejeté, il est rejeté de cette certitude que peut procurer une sorte d'expérience de sacré, une religiosité qui serait, vous savez, un peu comme un baume, comme un cocon. Pas de cocon. Jésus est jeté dans ce lieu désertique, c'est-à-dire sans assurance, sans filet de sécurité. Il est complètement exposé. Il s'expose. On pourrait finalement traduire « rejeté » par « exposé ».
Et on peut dire que le baptême, finalement, c'est pas simplement entendre une parole, mais c'est aussi vivre cette expérience. Ça fait partie du pack baptême.
Oui, de ce point de vue-là, on pourrait reprendre un peu l'expression du théologien Dietrich Bonhoeffer qui parlait de la grâce qui coûte. Il disait au fond, la grâce, et le baptême relève de la grâce, c'est d'abord un appel. Et on peut pas être croyant sans être pratiquant. On ne peut pas rien faire de cet appel. Et quand quelqu'un vous dit « je vous aime », eh bien en fait c'est un appel à faire quelque chose de cet amour. Si on le garde jalousement, si on enterre son talent, en fait c'est une dégradation de notre humanité. Donc il y a effectivement dans cet épisode le fait que l'affection que Dieu reconnaît avoir mise dans Jésus doit se convertir en une action, en une vie, en une expérimentation, en une éthique, quelque chose.
James Woody, le désert donc fait partie du texte, c'est un acteur principal du texte, ça renvoie au désert de la Première Alliance ?
Ça renvoie déjà à l'expérience du désert que nous avons tous fait, soit de façon fantasmée, soit de façon physique, parce qu'on a eu le plaisir d'aller dans le désert du Sahara, au Maroc, etc. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver un peu l'étymologie du mot, que ce soit en grec ou que ce soit en hébreu, midbar, c'est le lieu sans la parole. Un lieu sans parole. Vous voyez, c'est tout le contraire de ce qu'on imagine pour Jésus, qui va être prédicateur, porteur de l'évangile, porteur d'une parole de Dieu. Et là, c'est le lieu où, justement, il n'y a aucun confort de parole. Ça me fait penser à l'évangélisation. Vous voyez, il y a deux façons de faire de l'évangélisation. Soit auprès de familles qui ont déjà été christianisées, et au fond, il s'agit de reformuler, de casser un peu de fausses images, de le dire un peu autrement. Mais quand on est face à un terrain vierge, un terrain qui n'a reçu aucune parole, alors c'est une autre pédagogie qu'il faut déployer, et c'est autrement plus difficile.
Donc il faut perdre la parole, celle qu'on connaît.
C'est ça. Il faut mourir à sa parole pour ressusciter à la parole de l'autre, retrouver l'autre dans son champ culturel, rejoindre l'autre dans son univers. Et l'expérience du désert, c'est cela. C'est abandonner un langage familier pour adopter le langage de l'autre, et peut-être un langage polémique. Avec Satan, c'est pas joué d'avance, disons.
On va parler de Satan, mais les 40 jours, ça fait clairement allusion à l'Exode.
Oui, mais peut-être pas au sens où vous le pensez, parce que l'Exode, c'est les fameux 40 ans ou 42 ans dans la Septante de traversée du désert. Moi, je pense plutôt à l'expérience de Moïse dans l'Exode, mais c'est au chapitre 34, verset 28, ou du prophète Élie, c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 8. 40 jours avant la parole, 40 jours avant la révélation, 40 jours pour se préparer. Donc, un peu comme vous le disiez, 40 jours pour se débarrasser de nos paroles, pour accueillir une autre parole, pour faire place à l'altérité. Et c'est la période de jeûne que l'on retrouve peut-être dans l'expérience du carême, où on va faire un peu le ménage en soi pour accueillir cette nouveauté de vie qui est disponible.
Jésus est tenté par Satan, nous dit Marc. Alors, qu'est-ce que vous diriez au sujet de ce fameux adversaire qui est présent dans la Bible ?
Il y a dans la Bible deux figures qui représentent un peu soit l'aspect maléfique, soit l'aspect négatif. C'est le diable, le diabolos, et Satan, ici on l'a, Shatan en hébreu, c'est l'accusateur. On pourrait presque dire aujourd'hui c'est le procureur général. C'est celui qui va plaider contre celui qui est accusé en quelque sorte. On retrouve ce Satan dans l'épisode de Job, quand Job va être un peu en balance entre Dieu qui estime que c'est un bon croyant, et Satan qui lui dit « Oui, non, mais tu penses que c'est un bon croyant parce qu'en fait, il y trouve son intérêt et tu vas voir s'il a quelques épreuves, s'il est en quelque sorte éprouvé, ça va être une autre paire de manches. » Job s'en sortira très bien, comme Jésus va très bien s'en sortir. Et donc le Satan, c'est celui qui, si je le dis d'une manière un peu neutre, met le patient sur la table d'auscultation pour voir ce qu'il a dans les tripes. C'est pas forcément quelqu'un qui nous veut du mal, c'est pas d'abord forcément quelqu'un ou quelque chose, c'est une manière de désigner ce qui nous met à l'épreuve, ce qui nous accule en quelque sorte, qui nous pousse dans nos retranchements, qui va nous mettre dans une situation où on va se révéler de façon très intime et de façon très crue. C'est l'épreuve de vérité.
Est-ce que c'est cet adversaire-là qu'on retrouve dans le jardin du livre de la Genèse, lorsque la parole de Dieu est mise en doute, en tout cas la confiance est interrogée chez l'humain qui démarre son
itinéraire. Alors là, vous parlez du serpent que l'on trouve avec Adam et Ève. De mémoire, il n'est pas qualifié de Shatan. Ce qu'il fait, c'est un peu plus perverse, c'est-à-dire qu'il falsifie la parole de Dieu. Il la bouge un petit peu.
Et c'est ce qu'on verra dans la traduction de cette tentation au désert chez les autres évangélistes.
Oui.
Où le Satan amène des versets pour les déformer.
Pour les sortir de leur contexte. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que autant il n'y a aucune parole dans l'évangile de Marc, autant c'est une sorte de combat de parole chez Matthieu et chez Luc. Il y a une sorte de joute oratoire, il y a une vraie dispute théologique. Et Jésus l'emportera en étant le vainqueur de ce combat de versets. Ici, on a plutôt cette expérience de soi face à soi. Et c'est cela l'épreuve de vérité. C'est quand on est jeté en toute lumière et que l'on va découvrir la personne que l'on est véritablement. Et vous voyez, en fait, on n'a peut-être pas tant à craindre que cela du Satan. Ou alors, on a à craindre quand on n'est pas très au clair soi-même et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre parce que ces zones d'ombre vont être révélées par le Satan. Pourquoi craindre quelqu'un qui va nous faire passer une épreuve de vérité ? Sauf quand on n'est pas très heureux de la vérité en question.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
James Woody, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Jésus est au désert, juste après son baptême. Marc poursuit, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, ces bêtes, elles ne sont pas présentes dans les autres synoptiques.
Exact.
Qu'est-ce qu'elles représentent au fond ?
Alors moi, je me demande si, vous voyez, dans ces versets, ce texte très court, très dense, l'évangéliste ne nous offrirait pas une sorte de traité de psychologie religieuse, en mettant en évidence les différentes forces qui sont à l'œuvre dans notre vie personnelle. Alors on peut appeler ça la vie psychique, ou la vie de l'âme, après tout, psyché, l'âme, c'est un terme semblable. Les animaux sauvages, j'aurais tendance à dire, ils représentent la bestialité,
L'animalité,
la force. Je préfère la bestialité parce que les animaux sont possiblement des êtres vivants très sympathiques. Le côté bestial, ça montre le côté un peu sauvage, indompté. Peut-être qu'on pourrait appeler le « ça » dans un vocabulaire plus psychanalytique. C'est ce qui pousse la violence possible. Et quand elle n'est pas canalisée, cette violence, elle est bestiale, elle est inhumaine, elle est vorace. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est une bête sauvage pour l'homme. Et donc, il y a peut-être dans cette bestialité disponible, présente, les animaux sauvages, un aspect de notre vie qui est mis en évidence par l'évangéliste pour nous préparer en fait à la suite. C'est-à-dire que, vous voyez, si on veut avoir une vie heureuse, il faut savoir quels sont les paramètres, quelles sont les contraintes qui font notre vie pour pouvoir les dompter et les maîtriser.
Donc cette part bestiale ensauvagée de nous-mêmes peut mener aux pires excès. On peut dire que ces excès-là, ils sont décrits dans les autres synoptiques. L'abus de pouvoir, la convoitise et la toute-puissance.
Oui, c'est ça.
Dans l'épisode des tentations au désert, chez les autres, elle est décrite.
Oui,
là, elle n'est pas décrite.
Et puis finalement, tout cela est sous le coup du péché capital le plus important qui soit, l'orgueil. Se dire que tout cela est bon pour moi et pour moi seul. Il y a le psaume 104 qui est intéressant parce qu'il décrit la création avec une focalisation en son centre sur une sorte de jardin d'Éden et puis la vision de l'homme heureux. Et autour de cela, il y a la nature sauvage et les animaux sauvages aussi. Donc il y a une tradition biblique qui dit « les animaux sauvages font partie de notre paysage personnel ». Et si on est dans le déni, alors c'est là que commencent les problèmes parce qu'on ne comprend pas pourquoi de temps en temps on a ces pulsions dont on ne sait pas trop que faire. Et au fond, ces pulsions, elles sont constitutives de notre condition. Il ne faut pas en être effrayé parce que nous avons justement la capacité d'en faire quelque chose, de les dompter, de les maîtriser, de les orienter. Vous voyez, c'est comme une force. La force, elle n'est pas positive ou négative. Elle est ce que l'on va en faire.
Et en lisant ce texte, je pensais à Isaïe qui parle de l'agneau qui peut cohabiter avec le lion, la vipère qui ne fait aucun mal à l'enfant. Au fond, il y a une possibilité de laisser cohabiter en nous des forces différentes, sans les juger, mais en tout cas en être conscient et pouvoir dompter.
Oui, il y a une sorte de domestication. Pour cela, il faut une sorte de discipline. Et peut-être que les 40 jours au désert sont ce temps pour se discipliner un peu. Et vous voyez, moi, dans l'esprit du carême, du jeûne, etc., ça serait effectivement un jeûne pour redécouvrir une discipline personnelle, pour s'astreindre à faire quelque chose de ce qui nous anime. Et parfois, ce qui nous anime, c'est aussi la paresse, la procrastination. Ce qui n'est pas forcément plus heureux, ce qui nous empêche de faire valoir notre humanité. Eh bien, toutes ces forces qui sont à l'œuvre, il faut s'y habituer, se familiariser avec, pour pouvoir les orienter vers ce qu'on appellera plus tard la bonne nouvelle, l'évangile.
Ça veut dire que Jésus est traversé lui-même,
par ces courants divers, par cette animalité, parce qu'on peut avoir l'idée d'un Jésus aseptisé qui, dès sa naissance, accepte son chemin, la croix directement.
On voit qu'en tous les cas, Jésus n'est pas épargné par ce à quoi nous sommes nous-mêmes affrontés régulièrement. Jésus sort de ce, j'allais dire, un peu de ce cénacle. Il est jeté dans le désert comme nous, on est jeté dans la vie. Et la vie, bah, on le sait bien, ces temps-ci, c'est pas tout rose, c'est pas doux, c'est pas de la ouate, c'est pas de la soie. Et Jésus est, comme vous le dites, lui-même traversé par ce qui n'est pas très glorieux. Mais l'intérêt du Christ, c'est qu'il nous révèle que ces aspects peu glorieux de notre existence peuvent être évangélisés. Moi, je pense souvent à cette phrase que le personnage Joseph dit à ses frères dans le livre de la Genèse, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Il y a la possibilité d'opérer certaines métamorphoses pour, à la limite, pour retourner des énergies contraires. C'est un peu comme l'aïkido finalement. Le mal que l'on veut nous faire, on l'utilise pour se protéger et pour préserver aussi l'adversaire. Le Satan ne va pas être terrassé. On ne lui coupe pas la tête, on ne le ligote pas. On compose avec lui. C'est assez étrange, vous voyez. Y compris les bêtes sauvages, elles ne vont pas être attrapées et passées
à la moulinette.
À la moulinette. Les anges non plus d'ailleurs.
Alors justement, James Woody, l'évangéliste Marc nous dit ensuite... Au désert, les anges servent Jésus. Qu'est-ce qu'un ange dans la Bible ?
Bon, alors déjà un ange, que ce soit en hébreu malear ou en grec angelos, c'est celui qui apporte une nouvelle. C'est le messager, c'est le facteur, c'est le postier, c'est celui qui se tient à un moment de l'histoire des différents personnages bibliques où on pourrait dire il y a des choix à faire et l'ange va apporter des éléments qui vont permettre aux personnes de mieux s'orienter. C'est un peu comme si on se retrouvait à une patte d'oie, on ne sait pas s'il faut aller à gauche ou à droite, et là il y a un poteau indicateur qui nous donne des indications qui nous permettent de pouvoir prendre la direction qui nous semble la plus adaptée.
Et alors là, Jésus, à la croisée des chemins, de quoi ? Puisque l'ange vient, les anges viennent.
Je pense que si on reprend mon idée de ce traité de psychologie religieuse, on a d'une part la force indiquée par les bêtes sauvages, avec le Satan on a la culpabilité, qui est un énorme moteur, eh bien il me semble qu'avec les anges on pourrait avoir la nouveauté, l'altérité. C'est-à-dire que moi, ma compréhension de Jésus en tant que Christ est qu'il n'a pas le scénario au départ, parce qu'il n'y a pas de scénario. Et donc il faut l'éduquer, il faut l'ouvrir, il faut ouvrir sa conscience à la responsabilité qui peut être la sienne. Au fond, il faut lui faire découvrir sa propre messianité, il faut lui faire découvrir sa dimension christique. Dans l'évangile de Matthieu, on a un personnage qui va faire cela, c'est la femme syrophénicienne, qui va lui faire comprendre qu'en fait, il n'est pas là simplement pour les Juifs, mais il a une dimension universelle. Et Jésus dira « Ah, mais je n'ai jamais vu une foi aussi grande que dans cette femme. » Et donc, il y a des rencontres qui vont être nécessaires pour que Jésus devienne véritablement Christ, pleinement Christ. Et bien ici, les anges, à mon avis, font cela. Jésus pourrait se satisfaire d'être une sorte de rabbi, peut-être, ou alors il peut devenir Christ.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
James Woody, continuons à lire l'évangile de ce dimanche. Après l'arrestation de Jean, Marc nous dit que Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Donc nous apprenons que le Baptiste a été livré, et il n'y a pas de détails sur cet événement, mais cela propulse sûrement Jésus en avant.
Oui, et dans une certaine mesure, c'est aussi ce qu'on appellerait techniquement une prolepse, c'est-à-dire que ça précède la propre livraison de Jésus.
Oui, parce que c'est le même verbe, livré.
Oui, paradidomie. Jésus va être livré, souvent on dit qu'il est trahi, en fait il est livré, il est donné. Hein. Et donc, Jean le Baptiste est quand même réputé pour ouvrir le chemin. Eh bien, il l'ouvre aussi. Il ouvre la voie de la livraison, ce qui peut-être va préparer Jésus à ce qui peut lui arriver, et que ce soit peut-être un peu moins douloureux. Toujours est-il que Jean le Baptiste est livré, et on sait par ailleurs que être livré, ça va être non seulement être arrêté, mais on lui coupera la tête. On lui coupera la tête parce que on ne supporte pas la vérité dont il est porteur. La vérité, c'était de dire que il y a des liens qui ne peuvent pas aboutir en conjugalité, Hérode, Hérodiade, etc. Donc, lui, il avait simplement rappelé la vérité, une vérité qui était insupportable et qui lui a valu d'être arrêté et la tête servie sur un plateau. Ce qui est intéressant, c'est que cette ouverture de Jean, elle ouvre sur de nouveaux territoires. C'est-à-dire que Jean était dans le territoire de Juda, sur le bord du Jourdain, et là on ouvre sur la Galilée, sur le nord, sur le royaume du nord, un royaume qui jusque-là n'était pas vraiment en odeur de sainteté dans la Bible. Et c'est déjà un pas de plus vers ce qu'on appellerait les nations, vers l'au-delà, et puis aussi une réconciliation avec l'au-delà de la Samarie. Jésus qui porte en lui-même, finalement, les paramètres constitutifs de la condition humaine, et en même temps qui porte les stigmates de l'histoire d'Israël, avec la séparation entre le nord et le sud, et après avoir vécu ces moments forts dans le sud, il va vivre son ministère dans le nord.
On sait qu'à l'époque, on attendait une restauration de la royauté en Israël. Et justement, il est question du règne de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. Les temps sont accomplis. Qu'est-ce que on pourrait dire sur cette précision apportée par Marc ?
Eh bien, il y a tout d'abord l'évangile de Dieu. Et c'est assez propre à Marc, finalement. On va avoir assez peu cette expression par ailleurs. C'est la bonne nouvelle dont Dieu est la raison, dont Dieu est le sujet. Et au fond, quelle est cette bonne nouvelle ? C'est que la vie est possible et qu'on peut traverser les épreuves sans se faire écrabouiller. Et donc, il y a une perspective de salut. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, mais le règne, c'est mieux parce que royaume, vous voyez, ça donne un sentiment de spatialité.
Territorial.
Oui. Il n'y a pas de cadastre. C'est plutôt le règne au sens où Dieu est souverain. Dieu a les paroles qui nous font vivre. Dieu a les paroles qui nous permettent de, bah, comme dans Genèse 1, de pouvoir organiser le chaos et que ce soit pas trop chaotique dans notre vie. Et cela se passe dans la Galilée qui va devenir, alors pour le coup, le territoire symbolique des paroles et des actes. La Galilée, c'est l'essentiel du ministère de Jésus, avec une cohérence entre l'évangile et ce qui se passe pour les uns et pour les autres. À tel point que quand Jésus sera ressuscité, l'ange annoncera aux témoins de Pâques qu'il faut se rendre en Galilée, là où il l'avait annoncé, parce que c'est le lieu où il y a la vie. C'est pas un lieu de spiritualité intellectuelle, c'est un lieu de spiritualité très charnelle, très incarnée.
Appliquée, on pourrait dire.
Oui, oui. Et très marquée dans la vie quotidienne. La belle-mère de Pierre a une fièvre, on va s'occuper de la belle-mère de Pierre qui a sa fièvre, et ainsi de suite.
James Woody, à la fin de notre évangile, Jésus dit « Convertissez-vous ». Alors là, on retrouve les paroles de Jean-Baptiste, mais dans sa propre bouche.
Oui.
« Croyez à l'évangile », intervient le « croire ». Qu'est-ce que vous diriez sur cette finale ?
Alors, tout d'abord, il y a la question de la repentance avec le terme grec de la métanoïa. C'est toujours intéressant de le décortiquer. Nous, c'est l'intelligence, et méta, c'est ce qui vient après. Donc, métanoïa, c'est l'au-delà de l'intelligence. Autrement dit, ne vous contentez pas des choses qui sont immédiatement visibles. Ne vous contentez pas de la superficialité des choses. Allez au-delà, découvrez l'aspect non matériel de la vie. Découvrez l'aspect non visible, peut-être sensible, mais en tous les cas, pas ce qui saute aux yeux.
Donc, essayez de lire le sens des événements, de ce qui vous arrive, d'une parole reçue, d'une rencontre, de tout ce qui fait nos vies, en fait.
Oui, c'est nouer un peu la gerbe de tous les signes qui sont disponibles et d'être les interprètes des signes des temps. Et du coup, quand on a le temps est accompli, bah, en fait, c'est moyennement bien traduit parce que donc c'est le kairos, qui est le temps, non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité.
Le temps favorable, le temps...
Le temps propice, le bon temps, quelque sorte. Et il est rempli, en fait. C'est-à-dire qu'il est plein, accompli au sens où il ne manque rien. Donc vous pouvez y aller. Vous ne manquez de rien pour avoir une vie de toute beauté. Une vie d'une qualité infinie. Et c'est cela la bonne nouvelle. Vous pouvez vous échapper de ce sentiment de culpabilité que l'accusateur vous replace en face en permanence. Et vous pouvez aussi ne pas être soumis à cet ordre des choses indiqué par les bêtes sauvages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas condamné à être soit un être terrassé par la culpabilité ou complètement dépendant de cette bestialité qui est l'apanage de notre humanité.
James Woody, nous avons pris le temps d'écouter attentivement l'évangile de ce dimanche. Alors vous avez commencé bien sûr à nous dire en quoi ce texte nous rejoignait, mais si vous aviez une fine pointe à dégager pour nous aujourd'hui, en quoi ce texte il peut nous aider à vivre justement ?
Ben, il y a l'expérience des épreuves et au fond on voit ici que Jésus n'a pas souffert que sous Ponce Pilate pour reprendre le credo. Le Jésus qui est présenté ici, c'est un Jésus qui souffre de tout au sens où il est en sympathie avec la vie. Il éprouve la vie dans toute son intensité et il souffre au sens où il ressent ce que ressent son environnement. En parfaite sympathie avec nous, ça veut dire qu'il prend notre vie au sérieux. Et notre vie, du coup, est en quelque sorte ressuscitée dans sa dignité.
C'est pour ça que vous disiez qu'il est sorti de la sacristie.
Oui, exactement.
Il est en pleine terre.
Dans l'humus, l'humilité et l'humanité. Et alors, finalement, la dernière phrase est la bonne, je trouve. Croyez en l'évangile, croyez en la bonne nouvelle. Hein, c'est bien, croyez dedans. Au fond, c'est pas croire des choses qui sont complètement invraisemblables.
Un savoir, c'est pas croire un savoir.
Non, c'est placer votre confiance dans cet horizon. Dites oui à cette perspective de Dieu qui est que, au fond, vous êtes capable d'une vie pleine de sens, extrêmement réjouissante, parce que le kairos est à votre disposition. Au fond, tout ce que vous allez rencontrer dans votre vie peuvent être autant de points d'appui pour poursuivre votre route, là où vous pensez que ce sont des barrières qui vous empêchent d'aller plus loin. L'histoire n'est pas finie, comme l'épreuve du désert n'a pas été le point final de l'histoire autrefois.
L'être humain n'est ni un ange ni une bête, on le sait, et puis qui veut faire l'ange fait la bête. Alors, comment suivre Jésus en ayant justement une position qui soit juste, parce que souvent on est dans les extrêmes, d'un côté ou de l'autre.
Oui, c'est vrai qu'il y a des choses assez radicales. On pense par exemple à ce monachisme qui a pu placer les gens derrière une clôture. Et puis, des fois, on a l'impression que la foi est complètement diluée dans un activisme associatif, social, etc. Bien sûr qu'il faut tenir tout à la fois, être intégral en quelque sorte. Le christianisme, c'est à la fois les mains dans la boue, et le regard porté au loin. Au fond, on a une économie qui est en train de se mettre en place avec l'évangile de Marc. Cette économie, c'est pas l'économie de la souffrance, alors qu'on pourrait penser que Jésus ne va vivre que dans la souffrance direction le calvaire. C'est, je dirais, l'économie de la transcendance. Jésus traverse, il transcende ce qui lui arrive, il transcende sa vie quotidienne, il ouvre la voie de la transcendance pour que notre vie ne soit pas au ras des pâquerettes, d'une part, et surtout qu'elle ne soit pas soumise à l'ordre des choses.
Et quand vous dites transcendance, ça veut dire quoi pour nos contemporains ?
La transcendance, ça signifie que nous ne sommes pas condamnés à avoir le métier que nous avons eu quand nous avions 20 ans. La vie change, et bien nous pouvons aussi changer de métier. Nous ne sommes pas condamnés à avoir le même lieu d'habitation. Il peut y avoir de la transcendance dans notre statut social aussi. C'est pas parce que nos parents étaient ouvriers spécialisés que nous sommes condamnés à être ouvriers spécialisés. On a ça avec Jean qui ouvre la voie et Jésus qui ne suit pas exactement la voie de Jean. C'est-à-dire que Jean ouvre une voie et ensuite Jésus trace son propre chemin. Et c'est ça la transcendance. C'est traverser, mais ensuite avoir la liberté de donner les impulsions que l'on souhaite. Et ces impulsions, elles sont données par le Saint-Esprit au départ. Mais ensuite, on va orienter. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement, mais la direction, c'est quand même nous qui la choisissons. Et elle est là, la transcendance. C'est que nous sommes portés, et en même temps, on peut gouverner, on peut naviguer. Et on navigue pas à vue, parce que nous avons un socle d'expérience dans lequel on peut puiser pour savoir un peu quelles sont les zones dangereuses, quels sont les lieux où on peut aborder un peu en toute tranquillité, ce qui est souhaitable également.
Merci à vous, James Woody. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Marc. Je rappelle les références, chapitre 1, versets 12 à 15.